Vous écoutez RFI, il est minuit à Paris, 23h en temps universel.
Christophe Drevet.
À la une de l'actualité, le gouvernement israélien déterminé à réduire la justice au silence. Après le limogeage contesté du chef du Shin Bet, la sécurité intérieure, un processus de destitution a été lancé contre la procureure générale du pays, très critique contre la politique du Premier ministre Netanyahou. Nous irons à Jérusalem dès le début de ce journal. Le bras de fer qui se renforce en Turquie après l'incarcération du leader de l'opposition, Ekrem İmamoğlu. Les manifestations continuent et le pouvoir demande ce soir la fermeture des comptes X de 700 opposants au régime Erdogan. Et puis football, elle a réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations. La France, battue 2-0 à l'aller par la Croatie, a réussi après prolongation à l'emporter au tir au but. Nous retrouverons tout à l'heure Victor Missistrano au Stade de France. Les tensions politiques atteignent un nouveau paroxysme en Israël. Après le limogeage du chef des renseignements intérieurs, le Shin Bet, le gouvernement Netanyahou se montre plus déterminé que jamais à enjamber la justice. Il vient d'engager le processus de destitution de la procureure générale, une séquence qui pourrait prendre plusieurs mois et qui, selon l'opposition israélienne, pourrait marquer ni plus ni moins que la fin de la démocratie en Israël. À Jérusalem, Michel Paul.
Première étape, une motion de défiance. Les ministres israéliens ont voté à l'unanimité le début de la procédure de destitution de la procureure générale. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui présidait la séance, a vivement déploré que Gali Barav Miara n'ait pas assisté à cette réunion ni envoyé de représentants. C'est une preuve supplémentaire du profond mépris qu'elle manifeste envers le gouvernement et ses membres, a-t-il déclaré. La conseillère juridique du gouvernement, c'est son titre officiel, dans une lettre cinglante au ministre, accuse le gouvernement de vouloir se placer au-dessus de la loi et agir sans contrôle ni équilibre. Elle qualifie cette réunion du gouvernement portant sur sa propre destitution de « dépourvue de validité juridique ». L'objectif réel de la procédure, ajoute-elle, est de fermer les yeux sur des actions illégales prises par le gouvernement. Le cabinet israélien s'est réuni en l'absence du chef du gouvernement. Benjamin Netanyahou est en conflit d'intérêts pour cette procédure en raison de son procès pour fraude, abus de confiance et corruption. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et sur le terrain, le Premier ministre israélien poursuit sa guerre à Gaza. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce dimanche qu'une frappe israélienne avait touché l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud du territoire palestinien, où l'armée israélienne a repris ses bombardements. Un responsable du Hamas y a été tué, selon l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien. Des bombardements d'une intensité inédite qui ont fait 30 morts la nuit dernière, dont un autre responsable du Hamas, selon le ministère de la Santé du Hamas. Plus de 50 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre. De son côté, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, doit se rendre ce lundi en Israël et dans les territoires palestiniens. Elle entend réclamer un retour immédiat à l'accord de cessez-le-feu. Elle était ce dimanche en Égypte. Le bras de fer qui se durcit en Turquie entre l'opposition et le régime du président Erdogan. Le très populaire maire d'Istanbul a en effet été incarcéré en attendant son procès sur des accusations de corruption. Ekrem İmamoğlu a aussi été suspendu de ses fonctions. L'opposant, leader du parti CHP, est devenu la bête noire du président Erdogan. Il a été arrêté mercredi, ce qui a déclenché une vague de manifestations monstres dans le pays, avec encore plus de monde dans les rues ce soir. Une contestation inédite depuis le mouvement du parc Gezi en 2013, qui était parti de la place Taksim à Istanbul. Ce mouvement peut-il durer ? Max Valentin Robert est docteur en sciences politiques et spécialiste de la Turquie. Il était notre invité à la mi-journée au micro de Charles Tidrac.
Je pense que ça peut durer, surtout qu'on est dans un climat économique et social bien plus délétère qu'il y a quelques années. On fait souvent la comparaison avec le mouvement de Gezi. Entre-temps, la situation économique s'est fortement dégradée, notamment pour les jeunes. Et ce qu'on constate aussi, c'est que, contrairement à Gezi, ce mouvement de protestation semble avoir une base sociale plus large. C'est-à-dire que Gezi réunissait essentiellement des protestataires dans les milieux urbains et dans les milieux étudiants, alors que dans les protestations actuelles semblent réunir une base sociologique plus large. Par exemple, il y a eu des mobilisations d'agriculteurs à Konya, Konya qui pourtant est connue pour être un fief de l'AKP et de la droite religieuse plus généralement depuis les années 70, ce qui pose question sur le fait que ce mouvement s'essoufflerait. Il y a effectivement un climat économique et social qui alimente cette protestation, et cette protestation semble réunir des segments assez divers de la population.
Et ajoutons que les autorités turques ont demandé au réseau social X la fermeture de plus de 700 comptes d'opposants. C'est ce qu'a annoncé la plateforme ce dimanche soir. Aujourd'hui, un vote avait lieu en Turquie. Le grand parti d'opposition, le CHP, devait désigner son candidat pour la présidentielle de 2028. Le vote de soutien à Ekrem İmamoğlu a été massif. 15 millions d'électeurs y ont participé selon la municipalité. Difficile d'imaginer qu'Ekrem İmamoğlu puisse participer à la présidentielle, mais ce vote pourrait renforcer la légitimité de l'opposition. Enfin, la municipalité d'Istanbul devra dans quelques jours désigner un nouveau maire pour remplacer le leader du CHP emprisonné. Les poursuites ne concernant pas les accusations de terrorisme, la mairie d'Istanbul ne sera donc pas mise sous tutelle. Le monde catholique se réjouit de l'amélioration de l'état de santé du pape François. Après 5 semaines d'hospitalisation pour une double pneumonie, le souverain pontife a quitté ce dimanche l'hôpital Gemelli de Rome pour rentrer au Vatican, où il observera une période de convalescence d'au moins 2 mois. Pour la première fois, le pape a pu saluer et bénir des fidèles depuis un balcon de l'hôpital, un moment très attendu par les nombreuses personnes présentes. Compte rendu de notre correspondant à Rome, Éric Sénanc.
C'est sous des viva il papa de près de 3000 fidèles et autres pèlerins venus à Rome au pied de l'hôpital Gemelli que François s'est présenté pour la première fois en public depuis le 14 février. Un salut et une bénédiction très attendus. Merci à tous, a-t-il lancé d'une voix faible mais souriant, remerciant notamment une femme venue avec un bouquet jaune et blanc aux couleurs du Vatican. Des images diffusées en direct, place Saint-Pierre, où des centaines de fidèles s'étaient aussi rassemblés, parmi lesquels Lorenzo, un jeune scout, heureux de voir le pape rentrer à la maison.
Sa maladie a beaucoup influencé notre façon de vivre à Rome, parce qu'une place Saint-Pierre sans le pape, ce n'est pas la même chose. Donc on est heureux qu'il revienne et qu'il puisse reprendre et assurer sa mission de paix.
Peu après sa bénédiction des fidèles, François a quitté en voiture l'hôpital Gemelli pour faire une pause à la basilique romaine Sainte-Marie-Majeure et offrir un bouquet à la Vierge qui s'y trouve, avant de rentrer au Vatican sous les acclamations de fidèles qui ont suivi le cortège amassé sur les trottoirs dans un enthousiasme qui rappelait la plupart de ses voyages apostoliques. Le pape va désormais suivre une convalescence d'au moins 2 mois dans sa résidence Sainte-Marthe au Vatican. Éric Sénanc, Rome, RFI.
La France, théâtre d'une violente agression contre un rabbin dans la ville d'Orléans hier samedi. L'homme a été frappé à plusieurs reprises par un individu qui a pris la fuite avant d'être arrêté hier soir et placé en garde à vue. Le président français Emmanuel Macron a réagi sur X, dénonçant le poison de l'antisémitisme en promettant de ne céder ni au silence ni à l'inaction face à cela. En Israël, le ministre des Affaires étrangères qualifie lui l'agression d'acte intolérable. Du sport pour terminer ce journal avec tout d'abord du football, avec cette incroyable soirée au Stade de France. En quart de finale de la Ligue des Nations, l'équipe de France, dos au mur ce soir, a réussi à remonter 2 buts face à la Croatie. À l'issue des prolongations, les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales au tir au but. Au Stade de France, on retrouve Victor Missistrano.
Une séance très tendue avec plusieurs échecs de chaque côté et la libération pour les supporters français quand le défenseur d'Ayo Upamecano a converti son tir au but pour permettre aux siens de l'emporter 5-4. Ils le doivent en grande partie à leur gardien Mike Maignan, le français fidèle à sa réputation de spécialiste de l'exercice et auteur de 2 parades face aux tentatives croates. Cela permet aux Bleus de faire leur mission remontada, renversement de situation qui s'est construit sur un niveau de jeu qui a tranché avec celui du match aller en Croatie perdu 2-0. Les choix de Didier Deschamps ont été payants, celui de titulariser Michael Olise, auteur d'un coup franc magnifique en première période, le milieu offensif du Bayern Munich, buteur sur l'ouverture du score, puis passeur pour Ousmane Dembélé qui a doublé la mise d'une frappe en une touche, pleine de sang-froid. Cette victoire va faire du bien aux Bleus qui se rassurent et qui s'offrent un vrai moment de communion avec leur public, la France qui affrontera l'Espagne en demi-finale de cette Ligue des Nations.
Voilà, et l'Espagne justement qui s'est quant à elle qualifiée également au tir au but face aux Pays-Bas. De son côté, l'Allemagne a réussi à se hisser dans le dernier carré de cette Ligue des Nations. La Nationalmannschaft a battu l'Italie sur le score cumulé de 5-4 sur l'ensemble des 2 matchs. Enfin, le Portugal a largement dominé le Danemark 5-2 après une défaite 1-0 à l'aller. Les Portugais joueront donc eux aussi les demi-finales de cette Ligue des Nations. RFI, il est 9:10 à Paris.